Interview.
1 Interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa. L'interview aujourd'hui dans le cadre de la campagne des élections municipales à Die 2020. Aujourd'hui, nous sommes donc avec Philippe Levenberg. Bonjour.
Bonjour.
Jenny Jacquet.
Bonjour.
Laura Marchelli.
Bonjour.
Et Rémi Maru-Joul.
Oui, bonjour.
Bonjour. Et tous les quatre, donc, vous représentez l'équipe Die pour tous, une équipe candidate à cette élection. Die pour tous, cela signifie quoi ?
On a mis pour tous, puisque on voulait faire un projet pour tous, pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour les moins jeunes, pour les personnes handicapées, pour les cyclistes, pour les voitures, pour... la vie associative, notamment, et puis parce qu'un des gros axes de notre projet, c'est la participation des habitants à travers les commissions extra-municipales, parce qu'on ne s'est jamais empêché de prendre la parole et qu'on est une liste engagée, une liste qui prend la parole.
La représentation de cette liste de 27 personnes, hein, si je compte bien, sont de divers horizons professionnels. Ça garantit pour vous une certaine homogénéité de l'équipe sur le territoire ?
En effet, la liste est représentative de beaucoup de professions, de classes socio-culturelles. On a des compétences diverses, on est des âges du plus jeune 28 ans jusqu'à la plus âgée 75 ans avec une moyenne de 43 ans. Donc on est quand même une liste jeune, active, engagée.
Pour une qualité de vie, je suppose, pour Die, vous vous êtes réunis. Cette motivation qui vous réunit tous, elle est issue de quoi ?
Moi, la motivation, c'est vraiment le service public et l'intérêt général. Pour faire en sorte que tout le monde puisse se reconnaître, bien vivre ensemble et qu'il y ait des projets qui permettent à chacun de s'épanouir, déjà au niveau local, pour ensuite avoir un rayonnement plus grand.
Pour ma part, ce serait surtout pour une vie associative active, reconnue, entendue et soutenue. Mon engagement, il est aussi pour l'éducation et pour l'égalité des chances.
Moi, ce serait plutôt pour permettre à nos enfants d'avoir un avenir meilleur, de pouvoir vivre dans un territoire rural qui soit en action, en mouvement, qui ait des possibilités pour l'emploi, pour les activités et pour profiter de notre environnement, de la nature, voilà, que tout soit préservé.
Moi, je pense qu'il y a une urgence... social sur la ville de Die, il y a une urgence par rapport au service public. Le mandat qui vient de se passer, ce sera celui de la fermeture de la maternité, de la chirurgie, des menaces sur la gare de Die, des menaces sur l'hôtel des impôts, une diminution de l'offre de service public. Donc là, je pense qu'il y a une vraie urgence. Et puis, il y a une urgence. Donc, on est tous engagés de près ou de loin dans des collectifs pour la défense des services publics. Et puis, il y a l'urgence climatique. On ne peut pas dire que tout a changé ces 12 dernières années. Non, c'est une urgence qui dure depuis longtemps. Et on a une équipe de jeunes pour qui cette urgence-là, elle est inscrite dans l'ADN, dans notre ADN. Donc on a envie de changer les choses rapidement. Là, il faut vraiment bouger. C'est pour ça qu'on a un gros projet sur la question des déplacements, pour l'isolation des bâtiments publics, pour changer nos modes d'énergie, nos modes de consommation.
Le programme que vous éditez sont aussi la synthèse de vos rencontres avec les habitants de Die et vous-même êtes habitant. Ça reflète exactement pour vous les attentes de votre liste.
Oui, le programme, il reflète des attentes, des besoins que, au-delà des réunions avec tous les habitants qui auront lieu. Sur les deux projets que vous avez cités, enfin, qu'on a cités au niveau de l'associatif et des déplacements où tout le monde sera impliqué. Nous, c'est déjà deux projets qui sont des attentes de ce programme qui sont ressorties de notre groupe qui est déjà divers et varié de tout horizon, comme quand on s'est présenté. Donc déjà, le fait qu'il y a eu un consensus rapide entre 27 personnes différentes, on pense que ça permet déjà d'étayer ce programme.
Et je dois dire que, puisque je suis depuis 15 ans au conseil municipal, c'est aussi des choses qui remontent au niveau du conseil municipal et au niveau des élus sortants. C'est des attentes et des besoins qui sont remontés depuis très très longtemps.
Voilà, et donc vous avez chapitré vos propositions il y a à peu près environ 16 projets ou propositions génériques. La première étant pour une action sociale et solidaire.
Alors en fait, ça c'est la mise en page qui a fait que c'est la première. Effectivement, une action sociale et solidaire. Le mandat sortant l'a vu diminuer les subventions au CCS de 35%, les subventions aux associations de 25%. On n'a plus de locaux associatifs à dit pour se réunir. On a fait très très peu. Là, il y a une urgence de recréer du lien, remettre les gens dans des conditions de travail correctes, les bénévoles, les volontaires qui travaillent dans les associations, et les remettre au centre-ville, puisque une de nos priorités, c'est de refaire vivre ce centre-ville. Donc on a vraiment besoin de remettre de la vie associative au centre-ville.
Pour ça, il y a parmi vous des commerçants hein, donc, qui sont bien placés pour connaître la problématique. Est-ce que c'est inévitable, inéluctable, cette désertification des commerces en centre-ville? Ou alors vous pensez vraiment qu'il y a une remédiation possible?
Alors, je ne suis pas commerçante moi-même, mais mon père a été commerçant pendant 20 ans. J'ai travaillé avec lui, j'ai vu... le temps qu'il y passait, 70 heures, 80 heures par semaine, il n'était jamais à la maison, il faisait tout pour se payer 600 euros, 700 euros, pas plus. Et c'est une lutte de chaque instant pour les commerçants et je pense que la population doit s'engager avec cette lutte, dans cette lutte pour aller consommer sur place et pas favoriser les achats à distance, se déplacer à pied en centre-ville. C'est aussi créer du lien avec ces commerçants qui nous connaissent, qui connaissent nos vies, qui connaissent nos enfants, qui les voient grandir. Nos enfants consommeront après chez eux aussi. C'est important, c'est presque les premiers employeurs du territoire.
Une invitation donc au public aussi de changer de comportement, de se tourner plus vers les centres-villes, de manière à pérenniser l'activité commerciale. Est-ce que pour cela, vous allez vous doter de moyens de manière à faciliter ce rapport avec le public et le centre-ville?
En fait, il y a plusieurs choses dans notre projet, des actions différentes, notamment sur les déplacements, faciliter l'accès par les déplacements doux au centre-ville. C'est aussi laisser de la place à ceux qui ont vraiment besoin de leur voiture pour accéder au centre-ville. Il y a la rénovation de l'habitat ancien ou insalubre au centre-ville, la relance de l'opération façade qui a été abandonnée sous le mandat précédent. C'est malheureux parce que ça fait partie aussi d'une façon de rendre notre ville... plus jolie. L'idée de remettre une maison des associations au centre-ville, c'est remettre de l'activité en ville, c'est refaire tourner les gens, remettre les services publics qui sont tous sortis de la ville, alors soit les remettre au centre-ville, soit les garder au centre-ville, parce que c'est autant de gens qui viennent en ville pour accéder à un service. Voilà. Et puis il y a l'aspect culturel. Il y a le théâtre qui nécessite des travaux importants, le soutien aux festivals et aux manifestations qui font venir les gens en ville. Il faut que cette ville elle soit agréable à vivre pour que les gens reviennent en ville.
La circulation est un gros souci, justement, en centre-ville. Vous pensez transformer ces moyens d'accès du centre-ville pour les véhicules, notamment ?
Sur la circulation, au niveau du centre-ville, il y a des aménagements qui sont à faire, notamment continuer la rénovation des ruelles, de la rue Émile-Laurence, la place de l'Évêché, rénover aussi les revêtements de surface qui sont très dégradés, et ça, c'est des petits travaux, mais qu'il faut faire quotidiennement, je dirais. Et au niveau des déplacements, pour conforter ce que disait Philippe précédemment, nous, le but, c'est de développer des pistes cyclables à l'extérieur du centre-ville pour ramener les gens au centre-ville en sécurité et être agréable en vélo et pour laisser la place aux voitures les personnes qui en ont vraiment besoin. Je pense que vous pouvez rajouter...
Sans oublier que ce projet, comme tous les autres, ou la plupart en tout cas, pour les mettre en place, on va organiser des commissions extra-municipales pour que tous les acteurs soient entendus, concernés et respectés. Voilà, autant les piétons que les automobilistes, que les cyclistes, que les commerçants et que les acteurs associatifs en fonction du projet.
Dans la lecture que j'ai eue de votre programme, il y a effectivement une implication des acteurs locaux. Qu'en est-il de l'habitant lui-même ? A-t-il son avis à donner pour pouvoir exprimer ses doléances, par exemple ?
Ça, c'est la question participation des citoyens à la démocratie. On veut mettre un élu qui sera en charge de ces questions d'initiative citoyenne. Utiliser tous les outils qui existent aujourd'hui, le référendum, les réunions de quartier, les budgets participatifs, et surtout sur les gros projets, les projets importants, la mise en place de commissions extra-municipales. Ça permet, en fait, par exemple, sur la question des déplacements, de faire venir les riverains, les commerçants, le collectif piéton, le collectif vélo, les collectifs handicapés, les financeurs, les institutions. Et de partager de l'information, de partager un point de vue sur la ville de Die, et de trouver des solutions ensemble. Et c'est en travaillant tous ensemble qu'on trouvera les meilleures solutions, c'est notre avis. Hein, où ça prendra peut-être 2-3 mois de plus, 6 mois, on ne sait pas. Mais on aura une solution au moins qui aura été partagée par tous. Et je pense que c'est un gage d'efficacité pour faire travailler tout le monde. Quand on parle de démocratie, moi, je voudrais revenir juste sur le mandat qui précède. En fait, moi, en tant qu'élu sortant, je ne me suis jamais, empêché de parler. J'ai toujours pris la parole quand il faut pour faire remonter les besoins. Et ça, c'est quelque chose d'important, de faire remonter les besoins, de prendre la parole, de défendre aussi une certaine vision de la démocratie. Je pense aux discussions qu'il y a eu à la communauté de communes sur le plan local d'urbanisme, où si on n'avait pas pris la parole pour dire qu'il fallait que la discussion qui a lieu au niveau de la communauté de communes redescende au niveau des communes et des habitants, on n'aurait pas changé le règlement. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On a redescendu le débat au niveau des communes. Ça paraît très important que les citoyens s'emparent des questions. Sans ça, pas d'efficacité, pas de démocratie. Et on reste dans des conservatismes qui n'avancent pas.
Toutes ces transformations nécessitent une économie, un apport. Vous allez certainement demander cet apport aux collectivités locales, régionales, d'État peut-être aussi, départementales aussi. Et pour l'emploi, comment vous articulerez ces possibilités ?
C'est ce qu'on disait précédemment, le soutien au commerce est très important. On est dans un territoire très pauvre avec beaucoup de personnes qui sont sans emploi ou avec des emplois précaires. Il y a beaucoup de parents isolés. C'est toute une succession de choses qu'il faut penser. Si les parents ne peuvent pas faire garder leurs enfants parce qu'il n'y a pas assez de place en crèche ou parce que l'école est saturée, après ils ne peuvent pas chercher d'emploi. Il faut essayer aussi de penser à un tourisme autre que juste sur la période estivale, parce que là, le territoire vit principalement sur le tourisme, et c'est 2 mois dans l'année. Il faut penser plein de choses, soutenir l'économie sociale et solidaire qui se développe énormément dans d'autres territoires et qui peut être un apport d'emploi important, je pense, ici.
L'intérêt, peut-être aussi, c'est...
Sur l'emploi, oui. Pour compléter ce que dit Laura, en fait, il faut qu'on ait un pays qui soit attractif, où les gens aient envie de venir s'installer. Il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer aussi, mais en ce moment, des gens qui travaillent à distance. Pour ça, il faut qu'il y ait des services publics qui fonctionnent. Il faut qu'il y ait une voirie qui soit en état. Là, ça fait 12 ans qu'il n'y a pas eu de travaux sur la voirie, pour que les gens puissent circuler tranquillement. Il faut qu'il y ait des institutions culturelles, un théâtre, un cinéma, une école de musique, des services qui fonctionnent, qui soient attractifs. Voilà, tout ça, ça fait partie des choses qui vont aider, soutenir l'emploi. Et puis après, on a les filières locales, l'agriculture. C'est au sein de la communauté de communes qu'on travaille ça. L'agriculture, la forêt, la construction, le bâtiment. Voilà, au travers des commissions à la communauté de communes, on peut soutenir ces filières.
Cette part touristique qui attire aussi, c'est-à-dire l'artisanat, la création, quelles sont les propositions qui pourraient s'affairer à cet aspect de Die ?
Il y a des projets actuellement sur la zone artisanale, du soutien à l'installation, enfin des projets qui sont soutenus par la communauté de communes pour aider à l'installation de jeunes artisans, créateurs. Nous, ce qu'on voudrait aussi, c'est, par rapport au centre-ville, c'est que la mairie puisse préempter, la mairie ou la communauté de communes, hein, préempter les commerces et les magasins vides de façon à pouvoir les rénover et proposer des prix de location abordables. Puisqu'on l'a vu, là, il y a des commerces qui ferment parce que les loyers sont trop chers. Donc il faut qu'on retrouve des loyers peu chers et avec des bâtiments de qualité. Donc ça, la commune et la communauté de communes ont les moyens de le faire.
Et ça, c'est vraiment un levier extraordinaire. C'est un atout.
Le tourisme aussi, c'est le logement. Il en existe, hein, mais insuffisamment pour contenter tout le monde, et ne serait-ce que les habitants de Die aussi. Alors, pour ça, vous avez eu des réflexions sur ce domaine ?
Alors, sur le logement, il faut préciser, il y a actuellement la construction de beaucoup de logements à Champ-Queyras. Sous le mandat précédent, moi, je les avais votés en mettant une condition, c'est qu'on fasse des grosses opérations de réhabilitation du logement ancien au centre-ville, notamment pour ne pas vider le centre de ses habitants. Parce que les touristes viennent à Die pour voir une ville vivante, pas pour voir une ville désertée dont les rues seraient désertes. Et puis les Diois qui viennent s'installer, de plus en plus conscients des enjeux écologiques, ne souhaitent pas forcément s'installer très loin. Donc les centres-villes peuvent être prisés pour peu qu'il y ait des logements décents. Donc ça, c'est pas la commune qui directement a la compétence. Par contre, elle a la compétence d'animer, de multiplier les initiatives pour que les propriétaires privés rénovent leur logement, améliorent leur logement, isolent et fassent des logements de qualité. Voilà, ça, c'est un point très important par rapport à la vie du centre-ville.
L'isolation et puis la captation d'énergie renouvelable avec les capteurs photovoltaïques. Alors ça, c'est un projet ambitieux et voire courageux par rapport au patrimoine. Comment vous allez agencer ça ?
Là, il va y avoir une discussion, et la discussion elle a déjà commencé à la communauté de communes sur le plan local d'urbanisme intercommunal. Il va y avoir des discussions avec les Bâtiments de France par rapport à la question du patrimoine et du réchauffement climatique. Voilà, il faut arriver à trouver un consensus entre tout le monde, parce qu'aujourd'hui, quand on va avoir des canicules ou quand on a eu des canicules, voilà, les bâtiments qui ne sont pas isolés deviennent invivables. En hiver, on consomme de l'énergie pour rien. En été, on est dans des bâtiments invivables. Donc il va falloir trouver des solutions. Le photovoltaïque se développe grâce à des associations locales ou des entreprises. C'est à développer, pas forcément au centre-ville, mais par contre, tout ce qui est chauffage d'eau solaire, isolation des bâtiments, il va y avoir des discussions pour comment faire pour préserver le patrimoine et en même temps permettre aux gens d'isoler leurs bâtiments et d'être producteurs d'énergie quand ils le peuvent, quoi. Mais c'est une discussion qui va avoir lieu dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal. Donc ça va associer l'ensemble des élus du Diois. Donc il faut aussi voir que l'énergie, ça peut circuler. La production d'électricité, ça circule. Donc il y a peut-être des endroits, les hangars agricoles, qui sont plus faits pour produire l'énergie que les toits du centre-ville.
On peut passer aussi à la jeunesse, hein, avec les activités, qu'elles soient culturelles ou sportives. Quels sont pour vous les changements à faire ?
Alors déjà, il y a un autre gros projet qui est la création d'une maison des associations où serait regroupée une grande partie des associations qui touchent à la jeunesse, à la culture, comme on a eu il y a quelques années une maison des jeunes et de la culture, voilà, éventuellement même dans ce même lieu, voilà, qu'on pourrait rénover, repenser, voilà, toujours en collaboration, entre guillemets, voilà, en travaillant tous ensemble autour de ce projet. Par rapport à la jeunesse, il y a également des projets qui concernent l'aménagement du territoire aussi, pour que ça corresponde aux jeunes. Donc ça, c'est pareil, il faut les inclure dans ce projet, réfléchir avec eux. On peut parler par exemple du skatepark qui a été déplacé, enfin, est-ce que c'est pertinent ou pas, voir avec eux. Voir ce qu'ils en pensent, s'il faut le redéplacer, pourquoi pas. Et puis d'autres lieux d'expression, de loisirs, voilà, pour les jeunes, et si possible, à construire et à réfléchir avec les jeunes.
Oui, oui, c'est ça, à co-construire avec eux, avec le département aussi. On pense à l'espace jeune, etc., des choses qui se développent et qui sont très importantes pour le territoire.
Il y a un autre axe de nos projets liés à l'enfance aussi, c'est l'aménagement de la cour ou du stade, en fonction de comment on l'appelle, de l'école primaire Chabestan, voilà, qui est aussi à repenser par rapport aux dispositifs de jeu pour les enfants, en matière également de sécurité. On parlait des déplacements, en fait, tout ça c'est lié. Hein. Quand on parle de déplacement, c'est aussi lié à la jeunesse. C'est pour que les enfants puissent aussi venir à l'école, pourquoi pas à vélo ou à pied, en sécurité. Donc ça aussi, c'est lié à la jeunesse. Enfin, il y a beaucoup de projets qui se rejoignent, bien entendu. Voilà, donc il faut aménager les choses pour les enfants, pour leur sécurité en premier lieu et pour leur épanouissement.
Pour ça, vous allez devoir vous accaparer de quelques terrains pour amener des nouvelles aires pour enfants.
L'objectif par rapport aux terrains, aux terres agricoles, c'est vraiment la protection des terres agricoles. Et de toute façon, il y a un sujet qui est un peu fou aujourd'hui, c'est que l'État a décidé de faire la promesse de construire un nouvel hôpital sur 3 hectares de terres agricoles, je le dis tel quel. Et dans le même temps, l'Assemblée nationale a voté des lois contre l'utilisation du moindre mètre carré de terre agricole. Donc l'État va se retrouver en procès contre lui-même. En tout cas, notre idée, c'est plutôt de se dire qu'on va reconstruire la ville sur la ville. Donc il y a des espaces en ville, on peut retrouver de l'espace. On ne va pas aller manger de la terre agricole ou des terrains. Il faut retrouver des espaces, il faut chercher, il faut être méticuleux. Mais on n'a pas besoin aujourd'hui de manger de la terre agricole, quoi. On a vraiment trop besoin de la biodiversité, de la nature et de l'agriculture pour se permettre de manger des terres, quoi.
Concrètement, comment vous allez opérer pour préserver ces terrains? Vous avez les possibilités en tant que municipalité de mettre un frein sur ce démantèlement?
En fait, il y a la loi qui est avec nous, hein. La loi interdit aujourd'hui la consommation d'espaces agricoles. Sauf pour des projets où il n'y a vraiment pas le choix, déclaration d'utilité publique. Et encore, il faut des dérogations extraordinaires pour arriver à manger la terre agricole. Donc, on peut déjà s'appuyer là-dessus. Puis ensuite, la discussion sur le PLUI, plan local d'urbanisme, elle se fera au niveau de la commune. Et la commune a son mot à dire quand même par rapport à l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, il y a des zones constructibles qui ne sont pas construites, qui peuvent être rendues à l'agriculture. Échanger contre d'autres zones peut-être plus pertinentes, essayer de boucher les trous, creuses, le mitage, les dents creuses. En tout cas, il y a certainement des possibilités, construire en plus en hauteur, faire 2 étages au lieu d'un étage, c'est pas compliqué. Enfin, voilà. Il y a des possibilités pour préserver les terres agricoles, il suffit d'avoir la volonté, quoi.
Dans le programme, vous êtes aussi pour un engagement fort au-delà de dit. Cela signifie donc... une main vers la communauté de communes du Diois. Pour ça, vous voulez imprimer une nouvelle volonté politique dans cette instance?
La commune de Die a le plus grand nombre de représentants à la communauté de communes. 22, ça a été décidé par M. Trémollet. Mais ce n'est que 22 sur 75. Et le territoire Diois, c'est... plein de petits villages avec les oncles, les tantes qui habitent dans un village voisin. Il ne faut pas arriver en disant que la commune de Die va être là et va dicter sa loi à l'ensemble de la communauté de communes. Ça va être un travail avec l'ensemble des communes.
Coopératif.
Voilà. De toute façon, on veut tous que le territoire diois vive et retrouve des habitants.
Sur l'idée aussi, c'est bon, à la communauté de communes, évidemment, comme l'a dit Laura, de travailler en coopération. Et puis que la ville de Die travaille beaucoup plus qu'elle ne le fait actuellement avec le parc du Vercors, avec le syndicat mixte Rivière-Drôme, avec le département, la région, les autres organismes, où aujourd'hui, il n'y a plus de relations, alors qu'on sait qu'on a beaucoup à gagner, puisqu'il y a beaucoup de projets qui se créent, qui se font, qui se dessinent pour le Diois. Mais en dehors de nous, aujourd'hui. Donc il faut vraiment être en coopération avec tout le monde.
La rivière Drôme, c'est quand même un élément moteur du tourisme dans le Diois. Quelle est votre démarche pour cette rivière? Une plus grande implication des berges, par exemple, sur les berges de la Drôme?
Une plus grande implication au sein du syndicat mixte Rivière Drôme qui gère la rivière Drôme.
Alors, enfin, je pense qu'il faut préserver. Le SMRD ne gère que la rivière,
ne gère
pas les berges.
Il y a un plan quand même, il gère aussi à travers le SAGE, il y a quand même des orientations qui sont prises par rapport aux berges. Je pense qu'on est, on a un label rivière sauvage qui se dessine ou qui est là, en tout cas qui est dans la tête des gens. Rivière sauvage, c'est important. On a une des dernières rivières sauvages de France. Donc elle est très très fragile. Il faut la préserver. C'est ce qui fait l'attractivité du Diois. Il faut faire très attention avec. Et en même temps, c'est aussi, une rivière qui attire beaucoup de monde.
Sur le plan de la rivière, il faut absolument œuvrer pour conserver et réhabiliter la qualité de l'eau en été, qui est un gros problème. Et on va travailler là-dessus parce que on se rend bien compte que la qualité de l'eau est un enjeu fort pour les baignades, pour le tourisme, etc. Donc il y a certainement des investissements à produire sur ce secteur pour rendre la qualité de l'eau.
En passant par l'investissement pour le budget municipal, ce programme incite à une transformation des attributions de dotation pour chaque secteur de la municipalité.
Évidemment qu'on va revoir, si on est élu, on va revoir tout le budget. On a la chance d'avoir avec nous Pierre Gautronneau, qui doit être un des seuls élus capables de lire le budget aujourd'hui. On avait Yvette Ray, qui était très compétente. Ce qu'on peut dire sur le budget, c'est que sous le mandat précédent, il a été consommé 9,5 millions d'euros. Sous le mandat d'avant de M. Berginia, 13,5 millions d'euros. On est donc dans un sous-investissement. Et nous, ce qu'on veut remettre, c'est des moyens de fonctionnement pour les associations, remettre de l'argent sur la voirie, parce que là, il y a eu 12 ans de sous-investissement. Et ensuite, on sait qu'on a une capacité d'investissement importante aujourd'hui, une capacité d'emprunt importante, puisque la ville de Die est assez peu endettée du fait du sous-investissement précédent. Donc pour la maison des associations, pour les déplacements et pour les investissements pour l'avenir, l'isolation des bâtiments. Au passage, il va falloir isoler les bâtiments qui ont été construits il y a à peine 15 ans. Je dis parce que c'est quand même un peu fort de café. Voilà.
Un titre d'exemple.
Et ben le gymnase et les dojos où ont lieu les cours de judo où il fait 45 degrés l'été. Voilà, c'est des bâtiments qui sont très récents. Voilà, il va falloir les isoler parce qu'on ne peut pas faire du judo avec 45 degrés l'été. Quoi.
Au niveau de l'investissement, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Donc il y a la gestion des emprunts, sans faire d'emprunts inutiles. Et il y a surtout travailler pour avoir des projets, des grands projets, et travailler sur les subventions surtout pour répondre à des appels à projets, avoir des subventions qui permettent à des villes de notre taille de pouvoir des projets ambitieux.
Moi, je l'ai beaucoup dit sur ce mandat, hein, mais ce n'est pas en allant dans les cafés de Die qu'on va trouver des subventions. Tous les projets peuvent être financés, notamment les projets, tout ce qui est isolation, déplacement, infrastructure qui vise un peu d'avoir un peu plus de confort pour l'avenir et de lutte contre le dérèglement climatique. Tous ces investissements peuvent être financés par les partenaires financiers, jusqu'à 80%. Aujourd'hui, on a baissé le taux de subvention globalement sur les projets de la ville de Die. Donc c'est pas bien. Il faut aller parler à l'extérieur pour avoir ces subventions.
Est-ce qu'à vos yeux, sous les deux mandatures précédentes, il y a eu des dépenses qui n'étaient pas nécessaires ?
Non, il n'y a pas eu de dépenses qui n'étaient pas nécessaires. Par contre, il y a eu des emprunts qui étaient totalement inutiles. On l'a vu sur le budget de l'eau, des emprunts de 1 million d'euros qui ont mis plus de 6 ans à être dépensés. Des emprunts qui ont été faits là, au cours de ce mandat. À l'avance et qui n'ont pas été dépensés. On avait calculé sur les trois premières années une somme versée aux banques en intérêt du fait d'emprunts inutiles, des sommes trop importantes, des sommes qui auraient pu servir aux associations, à la jeunesse, aux personnes âgées, à la mise en accessibilité des locaux de la commune. Enfin, voilà, c'est pas des grosses sommes, mais quand même.
Moi, pour ajouter justement, ce que je dirais, c'est que c'est pas une question de nécessité, c'est une question de priorité. Il y a des choses qui ont été faites, qui étaient nécessaires, mais est-ce qu'elles étaient prioritaires ?
Tout ce programme donc nécessite un budget. Vous le pensez réalisable ?
Ah ben, je l'ai déjà dit, on a la chance d'avoir Pierre Gautronneau avec nous, donc on connaît la capacité d'investissement de la ville de Die, son niveau d'endettement. Et effectivement, là, on a la volonté aussi d'aller chercher beaucoup de subventions. Donc je pense qu'on a fait un programme, je dirais même, avec deux grands projets L'objectif, c'est non seulement de faire ces deux grands projets, mais de voir si en cours de mandat, ils sont faits, d'en relancer d'autres. Parce que je pense que si on va chercher des subventions et qu'on gère bien ce budget, on a moyen de faire encore plus que ce qu'on a écrit. Donc on a un programme de base qui est déjà important et l'idée c'est d'aller plus loin.
Pour ce qui est des municipalités, il y a donc ces collectivités comme la région, le département et voire l'État. Est-ce que vous y voyez pour l'avenir des possibilités de financement et pour ça qui y travaille et avec quelles perspectives?
Bien sûr, chaque projet fera l'objet de demandes de subventions des collectivités et des partenaires institutionnels. Et la liste que vous avez citée, bien sûr, correspond à cela, et à laquelle il faut rajouter l'Europe, bien entendu, qui aussi apporte des subventions importantes, même aux collectivités.
Et là, demain, j'ai vu aussi sur le programme.
J'ai Laura à côté qui ne veut pas le dire, mais elle lit la lettre de la Banque des Territoires. C'est une lettre qui informe régulièrement de tous les appels d'offres publics ou privés même, de tous les dispositifs qui existent. Et c'est un des outils, notamment, que les élus peuvent utiliser. Après, moi, je le redis, si les élus siègent au Parc du Vercors, il y a beaucoup d'idées et de subventions qui sont associées qui germe sur le parc du Vercors. Le comité de massif des Alpes, le maire de Die, a perdu sa place. Il y avait beaucoup de subventions qui étaient accordées pour la transition énergétique, pour l'isolation des bâtiments, pour les déplacements, y compris pour le tourisme itinérant. On a raté un coche, clairement. C'est clair qu'il faut aller siéger là où on doit siéger, à l'extérieur, aller discuter avec les partenaires. C'est là qu'on prend les idées et ensuite les subventions qui sont dues.
Oui.
Oui, Laura. Je voulais dire, je ne lis pas la Banque des Territoires pour les appels d'offres, mais par contre, je m'intéresse vraiment beaucoup à ce qui se passe au niveau du local et même au niveau un peu plus général. Et voilà, c'est des sites, c'est des sources où il y a des rapports qui sont sortis sur divers sujets. C'est des rapports objectifs qui étudient ce qui se fait dans d'autres territoires et on ne va rien réinventer. On va juste essayer de calquer sur notre territoire ce qui se fait et ce qui marche ailleurs. On est tous novices en politique ou la majeure partie, on est jeunes, mais on va se former. C'est un engagement qu'on a auprès de tous, de toute façon, c'est de se former.
De toute manière, la nouvelle équipe aura droit à une formation pour la gestion d'une municipalité. Ça, c'est compris dans la première année, je crois, de la mandature. Par rapport aux jardins, les jardins du Perrier, les jardins... qu'en est-il de la nappe phréatique? Semble-t-il, il y a beaucoup de propriétaires ou de jardiniers qui forent justement ces terres pour accéder à l'eau. Sur invitation, je crois, de la sous-préfecture, il y a à peu près 2 ou 3 ans, pour pallier la baisse du niveau de l'eau de la Drôme. Quel est votre avis sur cette pollution?
C'est marrant que vous disiez ça, parce que si vous vous rappelez, peut-être il y a 2, 3 ans, 4 ans même, j'avais écrit un article dans le Comdiwa et j'ai même venu à la radio pour dénoncer cette décision, en fait, qui pour moi est... l'abandon de la recherche de solutions collectives à un problème qui touche pourtant tout le monde, c'est-à-dire que la gestion de la ressource en eau va devenir de plus en plus compliquée. On a forcément... l'eau va être en tension, c'est un secteur qui va être très difficile, on va avoir des pénuries d'eau. Et plutôt que d'essayer de trouver une solution collective, là, la sous-préfète de l'époque avait proposé que chaque jardinier fasse un forage individuel. La conséquence, c'est que si on est vraiment en tension, chacun va pomper l'eau qu'il a besoin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Mais on n'aura pas résolu le problème de la gestion de l'eau. Donc il faut qu'on fasse un travail collectif. Et moi, je pense qu'on n'aura de solution sur ce problème-là que collectivement.
D'où la nécessité de cet engagement fort au-delà du dit pour travailler aux sources mêmes de la Drôme. Est-ce qu'il y a des choses à y faire au sein de l'intercommunalité du Diois pour ça? Et est-ce que c'est dans vos perspectives?
Moi, j'ai présidé pendant 2 ou 3 ans que j'étais conseiller général la commission pour la plan de gestion de la ressource en eau sur le bassin de la Drôme. On avait trouvé des solutions avec la FRAPNA, avec la DDT, avec la FNSEA, avec les agriculteurs du haut de la Drôme jusqu'au bas de la Drôme. Si on met tout le monde autour de la table, on trouvera des solutions. Là, la ressource, on ne peut pas compter sur des solutions individuelles, ça c'est clair. Donc la seule solution, c'est de mettre tout le monde autour de la table. Après, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on veut que la rivière, elle coule, qu'il y ait des poissons dedans, que tout le monde puisse s'y baigner, qu'elle soit le plus propre possible. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, comment on fait? Je pense qu'il y a la seule solution, c'est de mettre tout le monde autour de la table.
Des réunions, des invitations au public pour se concerter avec la municipalité, c'est dans votre programme. Ça sera de quel rythme à peu près?
Écoutez, on va voir combien de temps on met pour s'installer dans la commune et après voir avec les participants. Faut pas épuiser les gens. Quel est le rythme qui sera à tenir? S'il faut inviter des sociologues pour venir expliquer pourquoi les vélos consomment plus que les gens qui sont en voiture, pourquoi la piétonnisation est bien ou pas bien, pourquoi les commerces, comment fonctionnent les commerces. Voilà, le rythme sera imposé par le travail.
Exactement, le rythme sera imposé par le travail. C'est-à-dire que, on sait bien, sur les projets, il ne faut pas épuiser les gens en longueur, il ne faut pas les épuiser en réunion trop fréquente, mais si vous voulez, les rassemblements de personnes publiques, associées et riverains, elles se fera par rapport au travail qui sera fait entre les réunions. C'est ça qui va dicter le tempo. Si ça travaille entre les réunions, ça avancera.
Die étant une ville où il fait bon vivre pour beaucoup, hein. Donc pour la tranquillité publique, vous envisagez quoi ?
Ce qu'on envisage, c'est de faire d'abord, avant tout, de la prévention.
C'est ça.
Proposer de l'action pour les jeunes. Jenny en a parlé tout à l'heure. Retravailler avec les jeunes, déjà, c'est important. Reprendre de contact. On l'a vu sur ce mandat, ça n'a pas été vraiment le cas. Soutenir toutes les structures d'accompagnement, d'animation avec les jeunes, c'est le premier point. Et le deuxième point, quand on a des jeunes en plus grand décrochage, c'est de remettre en place quelque chose qui a été enlevé il y a déjà bien longtemps. C'est le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance qui rassemble tous les acteurs liés à la jeunesse et à la sécurité, des animateurs, éducateurs jusqu'à la gendarmerie. De les remettre autour de la table.
En passant par la police municipale.
En passant par la police municipale. Enfin, le maximum d'acteurs possible. C'est toujours notre vision. Hein. Plus il y aura de monde autour de la table, plus on sera efficace. Pour pouvoir gérer les quelques cas qui posent problème et voir comment on les gère de la façon la plus intelligente possible. Voilà.
En faisant confiance à chacun des partenaires.
Jenny Jacquet, vous êtes vous-même éducatrice, donc vous êtes bien au fait de ce qui se passe au niveau du social, de la prévention. Vous avez vu les dégâts qui ont été causés, certainement à la dernière mandature. Est-ce que vous voulez y revenir et comment?
Alors oui, je suis une éducatrice et je suis engagée en plus de ça pour la jeunesse. Le public dont on parle là. En plus de ça, je sais d'expérience personnelle et grâce à mes observations aussi et à mes compétences et à mes études que tout est un souci de prévention, en fait. Qu'on peut tout prévenir plutôt que d'arriver à la répression et à des choses qu'on a tous envie d'éviter, en tout cas dans notre liste. C'est pas une philosophie qui nous porte. Nous, on est plus dans un souci de prévention, d'aider la jeunesse. D'écouter la jeunesse, de faire avec elle, de l'accompagner. Il y a des éducateurs spécialisés à DIE, il y a de la prévention spécialisée. On peut travailler avec eux, il faut les écouter, il faut les soutenir, ces éducs. Il faut leur donner les moyens d'agir aussi. Pas que financiers, en fait, c'est aussi une reconnaissance, voilà, les mettre en avant. Je pense que par tous ces biais-là, on peut limiter les cas extrêmement rares, quand même, sur le DIE. De grandes délinquances, voilà, on peut agir. Vraiment, la prévention, c'est une nécessité. Sans ça, on ne réglera pas les problèmes.
Rémi Marujoul, vous êtes agent territorial de quel service?
Je travaille à la communauté des communes du DIE au service marché public.
Et donc, votre implication répond à une vision que vous pensez nécessaire à remédier?
Moi, je suis là pour apporter à la construction de ce programme, pour encourager l'exécutif de notre liste et apporter les idées constructives de par mon expérience et puis mon savoir-être quelque part.
Laura, je me tourne aussi pour vous. Donc, vous êtes assistante et accompagnatrice des élèves en maternelle, je crois, c'est ça ?
Je faisais des remplacements, là.
Oui.
C'est plus le cas, donc maintenant je suis au chômage. Et puis voilà, je suis impliquée dans des associations, coprésidente à la crèche. J'étais venue pour une association autour de la culture kabyle aussi, donc en termes de musique, voilà. Puis je suis engagée au niveau de l'environnement et pour moi, tout est important, tout est lié et il faut faire sa place dans le Diwa. C'est pas facile quand on n'est pas d'ici, mais on a les possibilités en tout cas. Il faut se donner les chances. En tout cas, il faut y croire.
Et puis Philippe Levenberg, donc vous êtes artisan. Quelles sont les possibilités aujourd'hui d'un artisan pour vivre à Di?
Moi, j'ai toujours été débordé de travail en tant qu'artisan. Je pense qu'il y a plein de possibilités. Moi, je voulais revenir sur... c'est pas en tant qu'artisan, je vais pas développer mon mandat pour les artisans. Enfin, évidemment, plus il y aura de travail, mieux ce sera. Non, sur l'organisation, vous savez qu'on est une liste assez jeune, il y a deux élus sortants. Sur l'organisation de l'exécutif, notre idée, c'est d'avoir des adjoints qui fonctionnent en binôme ou en trinôme même, d'avoir des petites équipes comme ça sur les projets, de façon à s'entraider, de façon à pouvoir être présent le plus possible de partout, à ne pas rater de réunion et être le plus à l'écoute possible de tous les acteurs, toutes les associations, des institutions, des financeurs. S'il faut être sur le parc du Vercors en même temps qu'une assemblée générale au gymnase de Die, il faut pouvoir le faire. Donc les binômes, c'est ce que ça permettrait. Voilà, l'idée, c'est vraiment... on a une équipe qui est dynamique, qui est généreuse et qui est à l'écoute. Ça, je pense que c'est le plus important, en fait, d'être à l'écoute de tout le monde. Voilà, c'est pour ça que notre idée de démocratie, elle est un peu là, être à l'écoute et agir. Mais on n'arrive pas les mains vides. On n'arrive pas les mains vides, on arrive avec des idées quand même. Voilà, merci.
Je termine avec la dernière question. Par rapport à la liste sortante de la municipalité, sont présentes deux listes d'opposition. Est-ce que pour vous, cela semble dommage qu'il n'y ait pas eu une constitution d'une unique liste ?
Écoutez, on peut facilement se perdre dans des discussions entre organisations pour avoir un rassemblement de gens qui ne sont pas forcément faits pour être ensemble et tout ça pour afficher le mot rassemblement. Moi, personnellement, en tant qu'élu sortant, je suis sorti de ces discussions à un moment parce que c'était interminable, très rude et puis surtout sans discussion sur le fond, sur les projets. Il y est arrivé un moment où tout ça a explosé en vol et où on a décidé de remonter une liste. Donc c'est une liste de citoyens. C'est une liste diverse avec des professions, de l'ouvrier à l'avocate en passant par le pharmacien, l'éducatrice. Enfin voilà, très diverses, engagées pour Di, connues pour leurs engagements pour Di. Voilà. Et puis après, on est en démocratie. Il y a deux tours. Donc les gens choisiront, feront ce qu'ils veulent. Enfin, vive la démocratie quand même.
Deux tours, s'il n'y a pas de liste sortante hein, dès le premier. Hein.
C'est vrai qu'on peut peut-être gagner au premier tour.
C'est notre but.
On peut rêver. Hein. Avant ces élections, donc, il y a divers rendez-vous donnés avec votre équipe et le public. Pour ça, on peut inviter les auditeurs à aller sur votre site internet où tout est indiqué.
Oui, sur notre site internet di-pour-tous. En principe, il sort sur le moteur de recherche. Et les rendez-vous récents, donc c'est ce vendredi 28 février, ça suffira. Mm-hmm. Ce vendredi 28 février, place de l'Évêché à 18h à l'ESCCD. Et la deuxième réunion publique le 12 mars.
Le 12 mars, juste avant le premier tour. Et les samedis après-midi, je n'ai pas en tête le calendrier précis, c'est sur notre site. Les samedis après-midi dans les quartiers.
C'est ce samedi, donc ce sera... À 13h au parc, au stade en haut, à côté du VVF. Ensuite...
À 14h au parc Audra.
C'est ça. Et 15h, place du Mazel.
Peut-être un dernier mot de vous tous pour parler et présenter votre liste et peut-être simplement vos souhaits.
Votez et faites voter dit pour tous dès le premier tour. Si vous voulez un réel changement à dit.
C'est ça.
Philippe Levenberg, Ginny Jacquet, Rémi Marie-Joule, Laura Marchelli, je vous remercie tous les quatre d'être venus nous présenter donc la liste 10 pour tous dans le cadre de la campagne électorale des municipales 2020 à 10.
Merci.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Merci. Interview.
Hey, bye bye.